papa.
Tu vois plus les autres quand je suis dans les pas.
Bonjour à toutes et à tous, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 28 mai 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Tchad, le nouveau premier ministre Alamaï Halina a dévoilé lundi la liste des membres de son gouvernement. L'Union européenne a annoncé lundi la fin de la mission militaire au Niger. Au Mali, un proche du premier ministre civil Choguel Kokala Maïga a été interpellé lundi par des hommes du renseignement. Vive condamnation internationale après une frappe meurtrière dans la ville surpeuplée de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Dans notre partie magazine, un nouveau chapitre se referme au Gabon sur le vaste dossier du scandale financier.
En décembre 2020, le comité de l'ONU sur la détention arbitraire avait rendu un acte demandant de libérer Brice Lakuchalenga et d'autres personnalités parce que leur détention était contraire à la dignité humaine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le nouveau premier ministre tchadien Alamaï Halina a dévoilé lundi la liste des membres de son gouvernement, indique un décret présidentiel lu à la télévision nationale. Il est constitué essentiellement des proches du président Déby, reconduits à leur poste. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le nouveau gouvernement de N'Djamena est composé de 35 ministres et 7 secrétaires d'État. Il est marqué par une forte continuité avec 23 membres du gouvernement sortant, reconduits ou nommés à d'autres postes ministériels contre 12 nouveaux arrivants. Parmi les caciques reconduits, Abderrahmane Koulamala, en tant que ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, on retrouve aussi Asilek Alata au ministère de l'Aménagement du Territoire ou encore Amina Priscille Longo, ministre de la Femme. La présidence avait annoncé vendredi la nomination au poste de premier ministre d'Alamaï Halina, un ancien ambassadeur du Tchad en Chine, qui a dirigé pendant 13 ans le protocole de la présidence de la République sous Déby père et fils. M. Halina succède à ce poste à Succès Masra, qui avait présenté sa démission un peu plus de 2 semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai. Les ministres du gouvernement antérieur issus des transformateurs, le parti de M. Masra, ont tous été évincés. Il s'agit du premier gouvernement de la 5e République au Tchad, après une transition de 3 ans conduite par le général Mahamat Idriss Déby, suite à la mort de son père, Idriss Déby Itno.
Le principal syndicat de la presse guinéenne a menacé lundi d'une grève générale illimitée après l'interdiction par la junte au pouvoir de plusieurs grands médias, la dernière en date d'une série de restrictions à la liberté de la presse. La semaine dernière, les autorités ont retiré les licences d'exploitation des stations de radio FIM FM, Radio Espace FM, Suite FM et Dioma FM, ainsi que de Dioma TV et Espace TV pour non-respect du contenu du cahier des charges. Ils ont justifié cette interdiction par des fautes fréquentes et des atteintes à la dignité humaine sans donner plus de détails. Toujours en Guinée, les avocats de 12 anciens responsables gouvernementaux et militaires jugés pour un massacre commis en 2009 ont commencé à plaider lundi, dernière phase de ce procès historique. Premier à plaider, Maître Bombi Mara a demandé l'acquittement de son client, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, soupçonné d'avoir ordonné à des médecins à l'hôpital de ne pas traiter les blessés. Au moins 156 personnes ont été tuées par balles, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, et des centaines blessées, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Au moins 109 femmes ont été violées. Les chiffres réels pourraient probablement être plus élevés. L'Union européenne mettra fin à une mission militaire comprenant des dizaines de soldats au Niger à la fin du mois de juin. C'est ce qu'a annoncé Bruxelles lundi, évoquant la situation politique de ce pays dirigé par une junte. Davantage avec Nani Talani.
Le Conseil a décidé de ne pas proroger la mission de partenariat militaire de l'Union européenne au Niger au-delà du 30 juin 2024, compte tenu de la gravité de la situation politique actuelle dans le pays, annonce le Conseil de l'Union européenne dans un communiqué. La mission a été créée en décembre 2022 à la demande des anciennes autorités de Niamey pour renforcer la capacité des forces armées nigériennes à contenir la menace terroriste, protéger la population et garantir un environnement sûr et sécurisé, rappelle le Conseil. La durée initiale convenue était de 3 ans. L'Union européenne a condamné le coup d'État qui a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, permettant au général Tchani, chef de la garde présidentielle, de se proclamer président de la transition. Le 4 décembre 2023, la junte nigérienne a annoncé mettre fin à l'accord de la mission de partenariat militaire de l'Union européenne au Niger. Le même mois, le commandement de la mission a informé le Conseil que le personnel du dit partenariat avait été redéployé en Europe.
Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 8 personnes et enlevé environ 150 villageois dans le centre du pays, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. Ce raid est survenu vendredi soir dans le village de Kouchi, dans l'état du Niger. Ces enlèvements massifs contre rançon sont fréquents dans les états du nord-ouest, du centre et du nord-est du Nigeria, où des gangs lourdement armés ciblent souvent des villages isolés pour piller et enlever les habitants. Amnesty International a réagi dimanche sur X à cette attaque et en estimant que l'assaut contre le village par des hommes armés est une nouvelle preuve de l'incapacité totale des autorités nigérianes à protéger les vies. Selon l'ONG, les autorités nigérianes ont laissé les communautés rurales de l'État du Niger à la merci des hommes armés qui tuent et enlèvent des gens quotidiennement. Au Mali, un proche du premier ministre civil Choguel Kokala Maïga a été interpellé lundi par des hommes du renseignement quelques jours après la publication d'un document ouvertement critique de la junte au pouvoir. C'est ce qu'indique l'entourage de M. Maïga. Les précisions de Jean-Louis Mafema.
Boubacar Traoré a été interpellé dans son bureau, dans les locaux abritant les services du Premier ministre, a dit un membre de son entourage. Des agents de renseignement sont partis avec lui dans un véhicule pour une destination inconnue. Deux proches ont confirmé son interpellation. Boubacar Traoré est le signataire d'un communiqué diffusé vendredi et opposant fermement à un éventuel maintien des colonels au pouvoir plusieurs années supplémentaires, à leur promotion au rang de général et à l'ouverture d'un dialogue avec les djihadistes. Ces propositions sont des recommandations issues des récentes consultations nationales organisées par la junte qui a signalé son intention de les mettre en œuvre. Le communiqué est présenté comme émanant de la faction du mouvement du 5 juin, resté fidèle au Premier ministre. On ne sait pas si Choguel Kokala Maïga a endossé le contenu du communiqué, largement considéré comme susceptible de sceller la rupture entre le Premier ministre et les colonels qui l'ont nommé en 2021.
Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a affirmé lundi que le chef de l'État Alassane Ouattara était son candidat naturel pour la présidentielle de 2025, un appel à faire un quatrième mandat sur lequel ce dernier ne s'est pas encore prononcé. L'ex-président est désormais opposant Laurent Gbagbo, 78 ans, a lui été investi par sa formation le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. Bien qu'il soit pour l'heure inéligible en raison d'une condamnation en 2018 pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal parti d'opposition, n'a pas encore désigné son candidat, mais devrait se rassembler derrière son président Tidiane Thiam, 61 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vive condamnation internationale après une frappe meurtrière dans la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui a fait, selon le ministère de la Santé, au moins 45 morts au cours de la nuit de dimanche à lundi. Le Premier ministre israélien regrette un accident tragique. Gabi Dorsil.
Demande d'enquête, dénonciation du mépris pour l'arrêt de la Cour internationale de justice, l'ONU et nombre de pays ont condamné lundi la frappe israélienne sanglante sur un camp de déplacés à Rafah. La présidence palestinienne et le Hamas accusent Israël d'avoir commis un massacre en ayant visé un centre pour personnes déplacées. L'armée israélienne dit pour sa part avoir frappé un complexe dans lequel agissaient d'importants terroristes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu estime que la frappe sur Rafah a été un accident tragique après avoir évacué 1 million d'habitants et il promet une enquête. L'ONU réclame une enquête complète et transparente et les États-Unis ont demandé à Israël de protéger les civils. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, s'est dit horrifié. L'Union africaine dénonce un mépris pour l'arrêt de la CIJ, la plus haute juridiction de l'ONU, qui avait ordonné vendredi à Israël de suspendre ses opérations à Rafah. Le président français Emmanuel Macron exige la cessation des opérations. Le Qatar considère que les bombardements vont compliquer les efforts de médiation en cours.
Par ailleurs, le ministère israélien des Affaires étrangères a ordonné au consulat d'Espagne à Jérusalem de cesser ses services aux Palestiniens à partir du 1er juin, selon un communiqué de la diplomatie israélienne. C'est en riposte à la reconnaissance par Madrid de l'État de Palestine. La semaine dernière, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé leur décision de reconnaître l'État de Palestine à partir du 28 mai, s'attirant ainsi les foudres d'Israël. Les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont entamé l'évacuation d'environ 7 900 personnes menacées par un possible nouveau glissement de terrain dans les hautes terres du centre du pays. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Togo, 685 établissements, dont 213 hôtels, sont reconnus par les autorités après une opération de recensement menée par le ministère du Tourisme et de la Culture qui a permis de les déclarer en conformité avec les normes en vigueur. Sont également approuvés par les autorités des motels, auberges, maisons d'hôtes, restaurants, figurent également des bars, centres de loisirs et plus de 180 agences de voyage. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 240 millions de dollars à Mauritius pour la deuxième phase du programme d'appui à la compétitivité et à la résilience économique. Le programme doit soutenir des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, comme un projet de loi sur la pêche visant à dynamiser le secteur et une mesure pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'agro-industrie. L'Afrique du Sud veut déposer une plainte auprès de l'OMC contre le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, risquant de lui causer un préjudice économique, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. La taxe carbone européenne va imposer des taxes sur les importations de produits à forte intensité de carbone à partir de 2026. Elle s'appliquera d'abord sur le ciment, l'acier, le fer, l'aluminium, l'engrais, l'électricité et l'hydrogène.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Les oppositions des demi-finales de la Basketball Africa League saison 4 sont connues.
Oui, les Rivers Hoopers du Nigeria feront face aux Libyens d'Al Ahly et les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud vont jouer contre les Angolais de Petro de Luanda. Les derniers matchs des quarts de finale se sont en effet disputés hier avec leur lot de surprises. Les Sénégalais de l'AS Douane peuvent avoir des regrets car ils tenaient bien leur rencontre jusqu'aux dernières minutes du quatrième quart-temps avant de s'incliner 66-65 devant les Angolais de Petro. Toujours hier, un peu plus tôt, les Tunisiens de l'US Monastir ont plié les Chines devant les Nigériens de Rivers Hoopers. Pas de match aujourd'hui. Les demi-finales ont lieu demain, mercredi.
Football, le sélectionneur du Burkina Faso a publié sa liste de joueurs convoqués pour les prochaines journées FIFA.
Cette liste est surtout marquée par deux absences, celle de l'habituel capitaine des étalons Bertrand Traoré, qui a retrouvé la forme avec Villarreal, et Issoufou Dayo, capitaine du club marocain de la Renaissance sportive de Berkane, finaliste de la Coupe CAF. Le gardien Hervé Kofi, lui, fait son retour alors qu'il n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement pendant les fenêtres FIFA de matchs amicaux. Autre retour, celui de Mohamed Konaté, auteur de 11 buts avec l'Alkmaar Grozny en Russie. Dans le cadre de ses éliminatoires du Mondial 2026, Edmond Tapsoba et ses camarades vont affronter l'Égypte de Mohamed Salah le 6 juin, puis la Sierra Leone le 10 juin.
Tennis avec le tournoi parisien de Roland-Garros, Ant Jabeur réussit son entrée.
La Tunisienne, 9e mondiale, a tenu son rang face à l'Américaine Sasha Vickery, 124e et bénéficiaire d'une World Cup qu'elle a écartée 6-3-6-2 hier au premier tour de Roland-Garros. Un premier tour de Grand Chelem, c'est toujours difficile, j'ai essayé de me relâcher sur le coup, mais j'espère que ça ira mieux au prochain match. Le chemin est encore long, a déclaré Ant Jabeur. Triple finaliste en Grand Chelem, Jabeur n'avait pas aligné deux victoires d'affilée cette saison avant d'atteindre atteindre les quarts de finale à Madrid fin avril, mais la semaine suivante à Rome, elle a de nouveau perdu d'entrée. Elle arrive donc à Roland-Garros avec un bilan de 6 victoires et 9 défaites. En 9 tournois, elle s'est inclinée 5 fois d'entrée, finaliste à Wimbledon en 2022-2023 et à l'US Open en 2023. La joueuse de 29 ans n'a jamais dépassé les quarts de finale à Roland-Garros, atteint pour la première fois l'an dernier.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero de retour avec vous pour le dossier du jour. Le Rwanda et le Mali plaident pour plus de coopération entre pays africains afin de mieux surmonter les défis politiques et sécuritaires sur le continent. C'est l'indication des ministres des Affaires étrangères des deux pays au terme de la signature de plusieurs accords ce lundi à Kigali. De Kigali, le récit de Jean Damascène Manchimwe.
Les menaces sécuritaires préoccupent de nombreux pays africains et mettent à mal les populations. Le Mali, qui figure parmi les pays luttant contre le terrorisme sur le continent, mise sur la coopération avec le Rwanda pour surmonter les défis politiques et sécuritaires auxquels il fait face depuis quelques années.
Je pense qu'aucun de nos pays n'est irréversiblement engagé dans une voie de la gouvernance ou de la stabilité. Nous sommes tous dans des phases d'apprentissage mutuel. Malheureusement, beaucoup de nos frères en Afrique n'ont pas encore compris que nos sorts sont liés et qu'aucun pays ne sortira de cette situation sans les autres pays, et que les avancées d'aujourd'hui peuvent constituer des reculs de demain. Donc il est important que nous puissions renforcer la solidarité entre nos pays.
Le Rwanda, comme un pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique, affiche la volonté de coopérer avec le Mali dans le domaine politique et sécuritaire.
Et ces échanges vont nous permettre de renforcer notre cadre de dialogue et de concertation sur les sujets de paix et de sécurité. Le Rwanda reste pleinement engagé à approfondir ses relations avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt mutuel, et nous croyons fermement que nos efforts conjoints porteront leurs fruits et contribueront à la prospérité et à la stabilité de nos pays respectifs.
Pour le juriste et analyste de la politique africaine Tite Gatabazi, la coopération sécuritaire entre le Rwanda et le Mali peut être salutaire à plusieurs niveaux.
Et la menace terroriste, elle n'est pas qu'au Mali en fait. C'est tout le Sahel qui est sous des attaques terroristes depuis que la Libye a été démantelée. Le Rwanda a une expertise en termes de lutte contre le terrorisme. Et donc, je crois que c'est une bonne nouvelle pour le Mali de bénéficier de l'expertise du Rwanda et de la coopération entre le Rwanda et d'autres pays pour lutter contre le terrorisme.
Pour d'autres observateurs, les pays africains devraient renforcer de tels cadres de coopération intra-africaine au lieu de compter uniquement sur des partenaires traditionnels.
Moi, je pense que c'est mieux pour nous de d'abord pour pouvoir s'appuyer sur nous-mêmes et nous faire face et régler nos problèmes de l'intérieur. Il vaut mieux qu'on limite quand même nos attentes vis-à-vis de ces grandes institutions qui ont aussi leurs contraintes internes.
Ces accords sécuritaires signés entre le Rwanda et le Mali, dont le contenu n'a pas été détaillé, font suite aux accords similaires conclus avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée. Jean Thomas Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Gabon, un nouveau chapitre se referme sur le vaste dossier du scandale financier. L'ancien ministre de l'Énergie était entendu par la Cour criminelle spéciale de Libreville sur l'usage des fonds générés par le redressement fiscal de la compagnie minière de Logoué. Parmi les personnages clés du procès, Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, aurait été au cœur de cette transaction estimée à 181 milliards de francs CFA. L'audience a débouché sur l'acquittement des prévenus pour insuffisance de preuves. La Cour a requis des peines allant de 10 à 12 ans de réclusion criminelle avec sursis, des amendes combinées de près de 6 milliards de francs CFA à verser à l'État gabonais à titre des dommages et intérêts. Mais les témoins du dossier cités par la défense n'ont pas été entendus par le tribunal. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
On demande d'avoir un tribunal, c'est pas forcément pour venir soutenir notre position. C'est pour éclairer la Cour sur la réalité de la vérité.
une entame d'audience sur fond de guerre de procédure qui n'a pas prospéré. La cour criminelle a rejeté la demande d'audition des témoins cités par les mises en cause dans l'affaire dite de malversation financière. Le procureur général estime que la défense n'a pas fait les diligences nécessaires pour rendre possible la présence devant la barre de l'ancien chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba notamment. Cette décision est diversement appréciée au sein de l'opinion.
Il s'agissait beaucoup plus de responsabilité individuelle, d'une forme d'autoproclamation, d'une forme d'usurpation de pouvoir qui s'est manifestée au vu et au su de tout le monde et qui ne pouvait pas déboucher sur une preuve concrète de l'implication d'Ali Bongo. Au-delà de tout, l'implication devrait être matérielle et il est difficile dans le cas d'espèce de prouver matériellement les ordonnées par Ali Bongo Ondimba.
Près de 10 heures de plaidoirie particulièrement éprouvante pour l'ancien directeur de cabinet, l'ex-président gabonais. Visage émincé et mal en point, Brice Lacruche Alenga tenait à peine debout aux côtés de son présumé complice Tony Ondomba. Tout en se réjouissant de la remise des peines des prévenus, l'ONG SOS Prisonniers ravive les souvenirs de leur détention.
Il y a eu des photos depuis la prison, alors que c'est interdit de filmer des personnes étant incarcérées et celles qui portaient atteinte à la présomption d'innocence portant atteinte à leur dignité. Et en décembre 2020, le comité de l'ONU sur la détention arbitraire avait rendu un acte demandant de libérer Brice Lacruche Alenga et d'autres personnalités parce que leur détention était contraire à la dignité humaine.
Brice Lacruche Alenga et son co-accusé Tony Ondomba étaient poursuivis pour détournement de fonds publics, complicité des détournements de fonds publics, concussion, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Engagé dans une procédure parallèle contre les fossoyeurs de fonds sous l'ancien régime, la société civile exige plus de transparence sur la gestion de ce dossier.
Il faut récupérer, restituer les avoirs qui sont le produit du crime, non seulement au Gabon, mais aussi au niveau international. Il y a des Gabonais qui sont impliqués, qui sont ici, qui ne sont pas inquiétés. Il n'y a pas que la famille Bongo.
Les deux accusés ayant déjà purgé leur peine de prison, la cour a ordonné la main levée de leur mandat de dépôt délivré en décembre 2019. Israël Bonzé pour VOA Afrique, Libreville.
Au Cameroun, une nouvelle ère s'ouvre pour l'aménagement de la voirie municipale et l'adduction en eau potable. Grâce à un financement du gouvernement américain, le pays va disposer désormais d'un parc de 270 engins de génie civil et d'équipements hydrauliques au profit des collectivités territoriales décentralisées. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les 270 engins de génie civil et hydrauliques seront basés dans 5 zones agroécologiques du Cameroun. Les communes des 10 régions du pays pourront les louer à un prix bon marché. Jusqu'ici, la plupart des autorités municipales ont fait recours aux partenaires privés pour l'acquisition des engins de génie civil et des services de forage d'eau potable.
Parfois, le coût est très élevé et cela devient difficile pour les mairies d'assister véritablement leur population.
Peter Ikome Mesoso, maire de Tiko dans la région du Sud-Ouest, en zone anglophone.
Je pense que la ville de Tiko sera l'un des centres pilotes où ces équipements seront basés et ça va être un important appui, pas seulement pour la ville de Tiko, mais pour l'ensemble des régions du sud-ouest, parce que notre plus grand problème est celui des infrastructures routières. Et avec ces engins, nous allons booster les infrastructures et solutionner le problème des routes, surtout les bassins agricoles où les agriculteurs ont des difficultés à écouler leur production. Mais cette situation sera désormais facilitée.
Cela fait plus de 10 ans que le Cameroun et ses partenaires travaillent sur la constitution d'un parc intercommunal d'engins de génie civil et d'hydraulique. Le projet piloté par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement des Territoires est financé par le gouvernement américain. Christopher John Lamoura, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun.
Les équipements que nous allons financer à travers notre Exim Bank, c'est-à-dire la banque d'export-import, montent à environ 80 millions de dollars américains ou bien 50 milliards de francs CFA. Et je crois que les résultats, on les verra enfin par rapport à ce que les conseils municipaux, les conseils locaux pensent sont les projets les plus importants pour le peuple local.
Ce prêt sera entièrement rétrocédé au fonds d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, l'institution financière au service des collectivités locales au Cameroun. Philippe Camille Akoa, directeur général du FECOM.
Il y a une structure sous la supervision du FECOM qui sera chargée de la gestion de cet important équipement de génie civil et d'hydraulique. Nous espérons que les premiers engins arriveront vers la fin de l'année, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des engins qui sont spécialement fabriqués pour ce projet. Donc les commandes qui sont faites seront des engins neufs qui seront dans le cadre de leur fabrication, donc en relation directe avec ce qui se passe au Cameroun.
La mise en place de ce parc d'engins de génie civil et d'hydraulique prévoit également un volet transfert de technologie avec la formation du staff technique local à l'utilisation et à la maintenance des équipements fabriqués par l'entreprise américaine Hoffman Equipment. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
L'ancien président Donald Trump a fait face à un scepticisme marqué sur sa candidature à la présidence lorsqu'il s'est adressé aux libertariens samedi. De son côté, le président Joe Biden a encouragé les élèves officiers à être les gardiens de la démocratie américaine. Davantage avec Veronica Balderas Iglesias. Le récit est de Ginny Niwa.
Contrairement aux foules de supporters MAGA qu'il rencontre régulièrement lors de ses rassemblements de campagne, Donald Trump a dû faire face à plusieurs détracteurs lors de la convention nationale du Parti libertarien qui s'est tenue samedi. Des huées ont été entendues lorsque Trump a mentionné un article écrit par le commentateur politique D-Roy Murdoch avant le discours du candidat républicain à la présidence.
D-Roy Murdoch a écrit « Donald J. Trump s'adressera au Parti libertarien et à sa convention nationale samedi. Le Parti libertarien doit nommer Trump candidat à la présidence des États-Unis. Wow, c'est bien, c'est superbe, seulement si vous voulez gagner. Seulement si vous voulez gagner. Peut-être que vous ne voulez pas gagner. Peut-être que vous ne voulez pas gagner. »
Les participants ont vivement applaudi lorsque Trump a énuméré certaines de ses priorités si les électeurs approuvent son retour à la Maison-Blanche.
En matière d'éducation, nous couperons les fonds fédéraux à toutes les écoles qui imposent à nos enfants des théories marxistes et communistes sur la race et le genre. Nous empêcherons les hommes de pratiquer les sports féminins. Et je ne donnerai pas un centime à une école qui impose des vaccins ou des masques.
Le président Joe Biden, qui tente également de se faire réélire, s'est adressé à une foule différente samedi. Les diplômés de l'Académie militaire américaine de West Point, dans l'État de New York.
Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire où nous avons demandé à nos militaires de faire autant de choses différentes dans autant d'endroits différents dans le monde en même temps.
Tout en soulignant que les soldats américains seront tenus à l'écart du champ de bataille, Joe Biden a insisté sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Il a également évoqué le rôle de l'armée américaine dans la défense d'Israël contre les récentes attaques de drones iraniens, ainsi que le travail effectué pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Les élèves officiers diplômés ont également été encouragés à s'accrocher aux valeurs qu'ils ont apprises à West Point.
Les idées ont besoin de défenseurs pour devenir réalité. C'est ce que vous, la promotion 2024, représentez. Les défenseurs de la liberté, pour la liberté, champions de la liberté, des gardiens. Et je le pense vraiment, les gardiens de la démocratie américaine.
Cette semaine sera très chargée pour les avocats de l'ancien président Donald Trump qui présenteront mardi leur conclusion finale à un jury de 12 membres dans le cadre du procès pénal de l'affaire des pots de vin de Trump à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Mounezero à son micro. Firmin Koyaweda a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir. We'll be right back.